On a commencé une série d'études basée sur un verset dans 1 Corinthiens chapitre 1. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 23, où il dit « Nous prêchons Christ crucifié ». Donc voilà, ça va être le thème, parce qu'il est très important et la croix est centrale dans le message de l'Évangile et il est bon que nous ne soyons pas distraits ou que nous ne passons pas à autre chose et ne soyons pas préoccupés avec les détails alors que l'essentiel c'est Christ crucifié. Nous allons lire le passage, donc 1 Corinthiens chapitre 1 et je vais commencer à lire au verset 17 jusqu'au verset 25. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse, et nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous vivons dans un siècle où on met en valeur l'intelligence de l'homme et ce que l'homme a pu découvrir, mais malheureusement c'est que avec toutes ses recherches il n'a pas encore découvert Dieu hein, par son intelligence et sagesse et ses formules il découvre plein de choses, il y va jusqu'à l'infiniment grand hein, et on en voit des appareils dans l'espace et qui voyagent pendant des années. Et puis on étudie l'infiniment petit. Je me rappelle, en tant que gamin, quand j'étais enfant, on disait que l'atome, c'était la plus petite chose. Mais maintenant, l'atome, on trouve que c'est tout un univers. Et voilà, on voit tout ça, et puis on n'arrive pas à voir Dieu. Mais en fait, Dieu, si on veut le voir, c'est à la croix qu'on le voit. Et donc ce matin, je vais prendre une première prédication intitulée « Le message de la crucifixion de Christ ». Nous voulons voir ce message qui nous est transmis par la croix de Christ. Premièrement, les témoignages. Pourquoi est-ce que pouvons être sûrs et est-ce que nous pouvons certifier aux autres que Christ est réellement mort? Bien, premièrement, nous avons le récit le plus complet qui existe concernant la croix, c'est justement ce qui nous est rapporté dans les 4 évangiles qui ont été rédigés chacun avant la fin du 1er siècle. Donc si nous voyons Jésus, il a vécu 30 ans, il est mort à 33 ans, il y avait jusqu'à la fin du siècle, il y avait des gens qui avaient, hein, c'est des témoins presque oculaires jusqu'à la fin du siècle de ce que Jésus était. Et donc ces évangiles ont tous les 4 été rédigés avant la fin du 1er siècle. Mais sans qu'on mette en doute la fidélité de ces hommes, hein, c'est pas, on pourrait dire, oui, mais ils étaient déjà croyants, ils étaient portés à cela, ils l'admirent, donc bien sûr, ils vont un peu améliorer les choses. Ben, s'ils voulaient améliorer les choses, ils n'ont pas amélioré les choses pour ce qui leur concerne. Hein, ils n'ont pas donné l'impression qu'eux étaient les meilleurs disciples de Christ et qu'ils étaient toujours des modèles et qu'ils étaient croyants et qu'ils n'ont pas manqué de foi. Hein, si c'était eux qui écrivaient selon leur pensée, eh ben, vous imaginez qu'ils auraient essayé de bien se présenter, de donner une bonne image d'eux-mêmes. Mais ce que nous avons aussi, c'est en dehors du texte biblique, nous avons le récit de l'historiographe romain d'origine juive, Flavius Joseph, hein, du 1er siècle, qui a écrit, en fait, il a écrit pas mal d'ouvrages. Il a écrit toute l'histoire du peuple juif depuis la création jusqu'à son époque. Et donc, il était respecté, il était né dans une famille pharisienne, mais bon, il s'était un peu porté vers les Romains et il s'est fait. Donc, il a été reconnu comme Romain, mais il a écrit l'histoire du peuple juif. Et donc, dans son livre intitulé ça viendra. En tous les cas, parce qu'il y a plusieurs livres. Et donc, dans ce premier livre, eh bien, il y a un moment où il parle justement de Christ, de Jésus. Et Jésus n'était pas forcément très connu. Seulement, tout ce qu'on savait, c'est qu'il y avait une histoire et puis après, il y a eu un mouvement. Mais je vous lis ce qu'il a écrit lui-même, hein, dans son ouvrage. Il dit « Vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il attira à lui beaucoup de juifs et beaucoup de grecs. C'était le Christ. Et lorsque, sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut 3 jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 autres merveilles à son sujet. Et le groupe appelé d'après lui, celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. » Voilà, et ça a été tiré du livre des Antiquités, voilà. Le livre des Antiquités, c'est le livre 18 et chapitre 3. Et donc, et lui, il est pas, que l'on sache, il n'est jamais devenu chrétien, ni croyant, ni rien du tout. Mais il a écrit Jésus-Christ, il y avait un homme, Jésus, qui a été crucifié et dont on dit est ressuscité. Donc il n'avait aucun intérêt là-dedans, c'est seulement il rapportait ce qui était arrivé. Il y a des textes aussi qui essayent de nier la crucifixion de Christ, par exemple le Coran, mais le Coran dont le prophète est arrivé au 7e siècle, mais le manuscrit le plus ancien du Coran date du 9e siècle. Hein. Lui seul, les Juifs, alors qu'ils avaient rejeté le Christ, ne niaient pas qu'un certain Jésus avait été crucifié, c'est seulement eux, leur problème, c'est qu'il n'était pas le Christ. Hein. Tandis que cette nouvelle religion qui est apparue au 7e siècle, eh bien, elle a voulu dire que Jésus-Christ, Jésus, n'a jamais été crucifié et qu'il n'est pas mort. Et il s'appuie beaucoup sur un évangile appelé l'évangile de Barnabé ou évangile de Barnabas, dont la première référence, hein, dont la première référence qu'on trouve dans les manuscrits date de 1634, hein, et qui provient de Tunis, donc à l'époque de l'Empire turc et les Émirats, donc issus d'un pays musulman. Certains suggèrent qu'un autre qui ressemblait à Jésus a été crucifié, Et ma réponse est, si tel était le cas, pourquoi est-ce que Dieu l'a ressuscité, hein? Parce que si c'était un faux Jésus qui a été crucifié, eh bien alors Dieu devait le savoir et ne pas le ressusciter. Pourquoi nous induire tous dans l'erreur à cause de cela? Mais ça a été une chose, c'est une réalité historique reconnue, parce que c'est les Juifs, c'est les Romains qui l'ont crucifié. Pilate est reconnu, il est dans l'histoire, lui il est connu. L'Empire romain est connu, l'histoire des Romains est connue, et ils reconnaissent avoir crucifié pas mal de gens, et entre autres ce Jésus. Donc c'est un fait historique, c'est une réalité, et nous ne devons pas douter de cela, parce que finalement, on est arrivé à cette conclusion, mais en fait, tout le message de l'Évangile se construit sur cette crucifixion de Christ. Hein, il faut que ce soit une réalité. D'autres témoignages, eh bien, 50 jours après la crucifixion de Christ, dans un contexte encore hostile à Christ, alors que les chefs religieux qui avaient fait condamner Jésus et qui avaient même payé des gardes qui étaient là autour de la tombe pour qu'ils propagent le message que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, mais que c'est les disciples qui sont venus et qui ont pris son corps et puis ensuite qui ont dit qu'il était ressuscité. Ça c'est dans Matthieu 28, versets 11 à 15, il raconte cela. Donc le jour de la Pentecôte, quand ils ont enfin compris, quand ils ont saisi Christ, ils l'ont vu ressuscité, ils l'ont vu plusieurs fois, et puis ils ont vu son ascension. Eh bien, le jour de Pentecôte, eh bien, eux vont descendre dans la rue et déclarer, au risque de leur vie, bien sûr, hein, si on a tué le chef, on ne va pas préserver les disciples, hein, ils ont, au risque de leur vie, et plusieurs sont morts pour cela, mais Pierre se lève ce jour-là dans une rue de Jérusalem, et il dit au peuple juif, il dit, homme israélite, et j'ai lu un passage de Actes chapitre 2, les versets 22 à 24, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon des desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce que ce n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Là, eux qui avaient du mal à l'accepter, qui ne l'avaient pas cru, même jusqu'à la crucifixion, même jusqu'au jour de la résurrection de Christ, eux qui n'avaient, là, tout d'un coup, eh bien, pour eux, ils comprennent, et maintenant ça devient clair pour eux. Il y a aussi le témoignage de l'apôtre Paul, qui au moment des faits, lui était hostile. Hein, il était au pied de Gamaliel, il était avec les pharisiens, et lui, pendant un temps, a combattu même ce message. Mais lui, plus tard, écrira aux Corinthiens, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, qui était le frère de Jésus, et pasteur de Jérusalem, puis à tous les apôtres. » Et là, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 7. Vous savez, Jésus est réellement mort et il affirme qu'il est mort selon les Écritures, selon les paroles des prophètes. C'était une réalité. C'est pas, en fait, si on avait voulu inventer une histoire pour faire une religion attractive, on n'aurait pas parlé d'une croix ni d'un sauveur qui serait crucifié. Hein, et c'était ce qu'on jeté à la figure de Jésus, c'est Mais si tu es venu pour sauver, sauve-toi toi-même. Commence par toi et ensuite nous. Ainsi, c'est-à-dire, l'intelligence humaine n'aurait jamais été dans ce sens pour prêcher un message de salut. Ce n'est pas d'origine humaine, ce n'est pas dans la pensée des hommes, il n'y a aucune autre religion qui ressemble, qui soit construite sur le même principe. Mais ce n'est pas seulement est-ce que nous avons les témoignages contemporains de Christ et de sa mort, mais il y a aussi les prophéties. C'était annoncé à l'avance. Les prophéties étaient données afin qu'on puisse reconnaître. Et les prophéties concernant la crucifixion de Christ, donc sa mort, parce qu'il y en a d'autres qui concernent sa naissance, qui concernent sa résurrection. Mais concernant la crucifixion même, eh bien, nous avons surtout le psaume 22 et Ésaïe 53, que nous connaissons bien. Le psaume 22, donc le psaume de David, du roi David. Et vous pourrez ouvrir, on va regarder plusieurs versets là dans le psaume 22. David a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Il était roi et son royaume, c'était 1000 ans avant Jésus-Christ. Et il a décrit, certainement qu'il a écrit ce poème inspiré de Dieu, mais il a écrit un poème un peu qui exprimait ce que lui ressentait à un certain moment, mais qui était en fait exactement ce que allait se passer beaucoup plus tard. Et puis ensuite, nous verrons le deuxième passage dans Ésaïe 53. Et le prophète Ésaïe, lui, date de 700 ans avant Jésus-Christ. Mais vous êtes dans le psaume 22. Déjà, lisons les versets 1 et 2. Là, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. » Et donc Jésus sur la croix, comme vous le savez bien, eh bien a repris ces mêmes paroles. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors que nous avons tous ces versets des psaumes et nous venons de terminer une série sur le psaume 23 où le bon berger n'abandonne pas ses brebis. Et ça c'est une situation bien particulière. Et qui ne correspond qu'à Jésus-Christ sur la croix. Et nous le savons et nous le dirons, mais c'est à ce moment-là, quand le péché du monde entier était posé sur lui, eh bien Dieu a dû se détourner. Et il a été abandonné pendant un court moment, et quelques heures plus tard, eh bien Jésus de nouveau s'adresse au Père, et dit « Entre tes mains, je remets mon esprit ». Donc la communion a été rétablie. Mais il y a eu un temps d'interruption. Et c'est le moment où le problème du péché était en train de se régler. Et donc, bien sûr, l'accomplissement se trouve dans Matthieu 27, verset 46. Il dit « Vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Regardez aussi les versets 8 et 9, donc le psaume 22, les versets 8 et 9, où il dit « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. » Et c'était exactement les paroles prononcées par ceux qui se trouvaient au pied de la croix. Et je lis dans le Matthieu 27, versets 41 à 44, il dit « Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Ces paroles, eh bien, elles ont été prononcées. Ils sont tous les deux dans le psaume 22, donc « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et cette parole-là, il a fait confiance en Dieu, que Dieu le délivre. C'est dans le même psaume, c'est dans le même contexte, et ça correspond au même événement. Et puis aussi, regardez au verset 16. Donc le psaume 22, verset 16, il dit « Ma force dessèche comme l'argile ». Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. » Donc, parlant d'une soif terrible, et il y a cette parole de Jésus qui a dit « J'ai soif ». Il nous dit au verset Matthieu 27, 48, il nous dit « Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il le lui donna à boire. » Et donc, ces éléments sont là. Continuez, regardez au verset 17 et 18 du psaume 22, 17 et 18. Il dit « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, chose qui n'est jamais arrivée à David. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Voilà, là encore, ces événements, c'est toujours dans le même contexte, le même verset, le même psaume. Et ce sont tous des événements, parce que Jésus-Christ aussi nous dit dans Jean 19, verset 23, il dit « Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne déchirons pas, et puis continue, il dit, bon, on va tirer au sort, qui aura cette pièce-là. » Et donc, voilà, c'est la croix, c'était un mode de mort qui était inconnu à l'époque de David. C'est les Romains qui ont inventé la croix. Et là, il parle, il dit, mais mes mains et mes pieds sont percés. Et il dit, je pourrais compter tous mes os. Et je ne veux pas aller dans la description de ce que c'est que le supplice de la croix, mais c'est beaucoup d'os sont déboîtés lorsque la croix tombe dans le trou. Et après, il parle de ces gens qui sont autour de lui, qui regardent, et puis ensuite les soldats qui partagent ses vêtements. Tout cela, c'est dans le contexte, c'est décrit, avec c'est des détails qui ne correspondent à personne d'autre. Et il n'y a aucun moyen de se tromper. Ensuite, Ésaïe 53, un passage que nous connaissons, que nous lisons assez souvent. Mais dans Ésaïe 53 et verset 7, et il nous dit qu'il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Et dans Marc 15, verset 5, et j'y arrivais à un moment où Jésus, il ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Il y a un moment où, Jésus ne parle plus. Comme un agneau, muet, la boucherie, on en parle. Et dans Ésaïe 53, verset 9, il nous dit, « Il a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. » Et nous connaissons le récit de quand Christ est mort, c'est Joseph d'Arimathée, donc un homme très riche de Jérusalem, avec Nicodème, sont venus pour retirer le corps, et puis qu'ils l'ont placé au lieu d'habitude, les corps étaient descendus de la croix et puis jetés avec les ordures ménagères de la ville. Mais là, eux, ils reçoivent le corps, ils l'enveloppent, ils le reçoivent avec respect, et puis ils le placent dans sa propre tombe, une tombe qui a été déjà creusée dans le rocher. Et donc, seuls les riches pouvaient se permettre ce genre de tombe. Et là, il est dans une tombe empruntée, parce qu'il n'en aura besoin que pendant 3 jours. Mais et c'est dans une tombe d'une personne aisée. Ça, c'est les prophéties anciennes, mais aussi, on peut voir, Jésus-Christ lui-même a parlé du fait qu'il allait être crucifié. Et cela, il en parle à ses disciples, il annonce à ses disciples qu'il sera mis à mort par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Dans Luc 9, verset 22, Je commence au verset 18. Il dit « Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui suis-je au dire des hommes ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres un des anciens prophètes est ressuscité. « Et vous, leur demanda-t-il, que dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne pas dire à personne, Et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et donc c'est aussi, c'est le Matthieu 16, c'est le même récit. Ce qui est c'est extraordinaire, c'est que Jésus puisse dire, il dit, vous savez, un jour, on va me prendre, on va me mettre à mort. Déjà, il est en train de parler de quelque chose qu'il ne contrôle pas. On ne contrôle pas le comportement des autres et ce qu'ils vont décider. Il pouvait savoir que les pharisiens ne l'aimaient pas, il pouvait savoir tout ça, mais de vraiment dire qu'ils vont le mettre à mort et puis qu'ils vont le ressusciter. Vous savez, si moi je savais qu'on allait me mettre à mort, ici à Fréjus, hein, qu'il y avait des gens qui allaient me mettre à mort, si je le savais, vous savez ce que je ferais ? Parce que je suis quand même humain, ben je quitterais le pays, hein. J'irais ailleurs. On reste pas là, hein, quand on sait que quelqu'un va nous mettre à mort. On n'est pas des petits lapins là qui savent qu'ils vont te manger un jour par un renard, mais on n'est pas là, on est des êtres humains. Mais Jésus, il sait cela, il le dira aussi par ailleurs. Il dira qu'il ressuscite, il parle de sa résurrection, mais il le fait. Il dit, ils vont me prendre, ils vont me mettre à mort, mais je ressusciterai. Donc ne paniquez pas, mais ça va venir. Et les disciples ont dit, non, mais Jésus, même Pierre lui a dit, non, ne parle pas comme ça, c'est pas bien. Dieu ne plaise. Hein, que... Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan, tu n'es pas en train de parler de la part de Dieu, là. Tu es en train de parler comme un homme. Comme quelqu'un qui voudrait m'empêcher de mourir sur la croix. Il dit, c'est pour ça qu'il dit « Arrière de moi, Satan ». Satan a compris que la croix était cruciale. Et je ne fais pas un jeu de mots, là. Mais il comprend que c'est important. Et il aurait voulu que Christ meure, mais autrement, à un autre moment, pour que ça ne soit pas... Et ils ont tout fait pour que... Et finalement, c'est arrivé quand Dieu l'a voulu. Dans Jean chapitre 12, verset 27, je vais lire à partir du verset 23. Jean 12, je lis à partir du verset 23, il dit, Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ça, les disciples, ah oui, d'accord, on est contents. Hein, ça veut dire la gloire, ça veut dire tu vas devenir roi. Vous pouvez imaginer tout ce qui passait par leur tête. Mais 24, il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt et reste seul, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, jusqu'à ce jour, cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et donc Jésus est là en train de dire, mais je dois mourir. Il dit, comme le grain de blé qui est semé en terre, eh bien, doit mourir. Il dit, moi, je dois mourir. Et il dit, et je ne vais pas me demander au Père de me délivrer. Et nous savons, hein, il avait même dit, hein, quand Pierre a voulu protéger Jésus et dans sa colère, il a coupé l'oreille d'un des serviteurs du souverain sacrificateur. Jésus a dit, mais non, mais écoute, j'ai pas besoin de toi. Hein. Si je veux, je peux appeler des légions d'anges pour me délivrer. Hein. J'ai pas besoin. Si je voulais ne pas mourir, je pourrais les empêcher de me tuer. Mais il dit, je suis venu pour cela. Je suis venu pour mourir. Et donc, c'était dans le plan, c'était pas un accident, et c'est ça qui gêne certains. Il dit, comment un grand prophète, Dieu lui permette qu'il soit mis à mort de cette manière-là? Mais c'était justement pour cela qu'il est venu. Christ est mort pour mourir. Nous naissons pour vivre. Lui est né pour mourir. Et pour mourir de cette mort-là. Et donc la question maintenant, c'est mais pourquoi tout cela? Et nous voulons le message de la croix, le message qui ressort de la croix. Vous savez, c'est quand même étonnant que Jésus, fils d'un charpentier de Nazareth en plus, les Juifs ne pensaient rien de bon de Nazareth, et qui n'est jamais devenu un héros national, et qui semble, hein, de l'extérieur, semble être mort de manière prématurée, sans réaliser son rêve d'établir un royaume. C'est quand même étonnant qu'il soit si bien connu dans le monde. Là où Aristote, César Auguste, Napoléon ne sont pas connus, il est adoré 2000 ans plus tard. C'est quand même extraordinaire qu'il ait pu, lui, qui naît dans une étable, qui est mort comme il est mort, comme un criminel, eh bien, soit si connu dans le monde, encore de nos jours. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'on prend l'instrument de sa mort, la croix, pour en faire le symbole de l'Évangile, hein, la croix. C'est pas, en général, quelqu'un qui veut montrer la puissance, eh bien, il a un ours, il a un aigle, il a un coq, il a quelque chose comme symbole, mais pas un instrument de torture, pas l'instrument qui l'a mis à mort, hein, mais ce par quoi il a remporté les victoires. Et même dans les deux ordonnances que Jésus a laissées pour les disciples, donc la scène et le baptême, tous les deux font référence à la croix. La scène n'a pas de sens s'il n'y a pas de croix. Le baptême, c'est une mort avec Christ. S'il n'y a pas de mort, ça n'a pas de sens. La croix est là. La croix est tellement importante dans l'évangile de Christ que si on enlevait la croix de la Bible, on enlève l'âme de la Bible. Il n'y a plus rien. Ça devient un livre comme n'importe quel autre, hein, que vous pouvez acheter chez Amazon. Il n'y a plus rien. La croix, c'est tout. Et tout est bâti sur le fait de la croix, le Christ crucifié. Et nous ne devons jamais l'oublier. Maintenant, si Jésus, en qui le Père a mis toute son affection, vous vous souvenez cette parole au baptême de Jésus, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si ce fils-là a dû devenir malédiction, c'est-à-dire parce que dans la culture juive, eh bien, la croix était une malédiction. Et l'apôtre Paul le soulève aux Galates, quand il parle aux Galates, chapitre 3, verset 13, il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « maudit et quiconque est pendu au bois ». Et donc, Dieu, qui délibérément prend ce fils qu'il aime tellement, et qu'il le laisse devenir malédiction, qu'il meure et qu'il meure la mort la plus honteuse de l'époque. Eh bien, quel est le message? Pourquoi a-t-il fait? Qu'est-ce qui était sa motivation? Qu'est-ce qui était derrière cela pour qu'il fasse une chose? Quand on est prêt, hein, c'est parfois, on peut arriver au point, et bon, c'est une chose, sacrifier une dent chez le dentiste, mais c'est autre chose que sacrifier un bras en chirurgie. Mais si on le fait, c'est parce qu'il y a bien une raison, parce qu'on est vraiment convaincu qu'il faudra couper le bras pour sauver le reste du corps, hein, de la gangrène ou quelque chose. Mais c'est, il y a une raison, on ne fait pas ça facilement. Et là, Jésus, en plus, Dieu donne son fils bien-aimé qu'il sacrifie. Et c'est qu'il y a vraiment, il est convaincu de quelque chose, il a une motivation qui est sûre. Il y a un message pour nous qu'il veut nous communiquer. Un ange ne pouvait pas communiquer ce message. Ils l'ont essayé. Et ils ont, à la naissance de Christ, au berger, hein, les anges ont crié, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Mais ça n'a fait pas la même force. Il y a Moïse, il fallait plus qu'un prophète. Les prophètes avaient parlé de ce plan et tout cela. Mais il fallait plus qu'un prophète. Même Moïse lui-même, qui dans l'esprit des Juifs, c'était le plus grand des prophètes, eh bien, il a dû dire, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Deutéronome 18, versets 18 et 19. Là, Moïse annonce la venue de quelqu'un qui est issu de ses frères, donc qui est forcément juif. Il ne peut pas être de la péninsule arabique. Hein, il est juif forcément. Et il n'y a que Jésus qui répond à cela. Mais Moïse a dû dire, mais il y a quelqu'un qui viendra après moi, qui vraiment il vous parlera. Lui, ses paroles, ce sera autre chose que même mes paroles. Et Pierre se lèvera, bien sûr, dans les rues à Pentecôte, rue de Jérusalem, et il déclarera aussi ce message, une fois qu'il l'aura compris. Et quel est le message de la croix? Et rapidement, parce que nous allons le développer plus par la suite, mais déjà, la première partie du message se trouve dans Jean 3, 16, que nous avons beaucoup entendu, et qu'on aime entendre. C'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la première partie du message, la première raison pour laquelle il est mort, c'est pour pouvoir donner la vie éternelle à quiconque croit. Ça, c'était la première raison. Et c'est la foi, c'est celle en lui, et c'est ce qu'on met en avant, et ce que, dès que nous comprenons cela, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés, de nous délivrer et de nous donner cette vie éternelle, et nous sommes très contents. Mais ce n'est pas tout le message, hein, ça c'est seulement une partie, c'est peut-être celle qui nous intéresse, parce que c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est le don gratuit, c'est quelque chose qu'on reçoit, et donc on est prêt à recevoir. Mais dès que le message commence à parler de donner, alors là, il y a moins de volontaires. Mais tout à l'heure, on a lu dans Jean chapitre 12, Jésus disait, oui, bien sûr, le grain de blé meurt. Mais pourquoi est-ce qu'il meurt? C'est pour porter du fruit. Il ne meurt pas pour la gloire. Il meurt parce que lorsque le grain de blé meurt, c'est à ce moment-là qu'il peut produire un épi. Hein, il dit, en vérité, je vous le dis, hein, donc Jean chapitre 12, versets 24 à 26, il dit, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, parlant de lui-même. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, la raison pour laquelle il est mort, ce n'est pas juste pour offrir la vie éternelle, mais c'est pour porter du fruit. Et si c'est un grain de blé qui meurt, le fruit, c'est des grains de blé. C'est quelque chose qui le ressemble, quelque chose de la même nature. Et si Christ est mort, c'est pour que le produit, eh bien, ce soit des êtres humains qui soient comme Christ, qui le ressemblent. Jésus a bien voulu être le grain qui est semé en terre et qui meurt, mais c'est en vue du fruit qui sera porté qu'il le fait. Hein, il nous dit dans Hébreux 12, c'est la joie qu'il a vue, le résultat, et il a supporté, qu'il a enduré la souffrance de la croix. Et Dieu veut que ceux qui ont reçu le salut s'affectionnent aux choses d'en haut. Hein, c'est ce qu'il nous dit dans ce passage. Hein, il dit, si celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc il dit, oui, je suis prêt à mourir, c'est pour donner la vie, mais si vous recevez cette vie nouvelle, c'est pour la vivre. Hein, et c'est pour marcher avec lui. C'est dans un sens le salut que l'Évangile propose, parce que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Ce n'est pas une assurance vie. Le principe d'une assurance vie, c'est, je paye mon assurance, et puis le jour où je meurs, quelqu'un va toucher de l'argent. Hein, ça, c'est l'assurance vie. Tant qu'on ne meurt pas, on n'a rien. C'est pas ce que Jésus nous donne, ce n'est pas l'assurance vie. Ce n'est pas le fait, maintenant j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur, donc maintenant c'est bon. Et le jour où je mourrai, là j'encaisserai, j'irai au ciel. Ce n'est pas une assurance vie. Le salut de l'Évangile n'est pas une assurance vie, mais c'est une vie dans l'assurance. Hein, c'est une vie. Il a dit, vous êtes mort, c'est pour pouvoir maintenant vivre, pour que vous puissiez vivre, et vivre des vies selon celui qui est mort. Et dit, maintenant, donc ne nous attachons plus aux choses d'ici-bas, mais nous allons nous attacher aux choses d'en haut. Pas tellement, il ne demande pas de nous extraire du monde, et il le dira dans sa prière, il dit, je ne demande pas qu'il soit ôté du monde, hein, on n'a pas besoin de se retirer ni sur une montagne, ni dans un bâtiment, et il dit, non, je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, hein, vous êtes dans le monde, mais pas du monde, je vous demande de vivre ma vie dans ce monde. C'est la seule manière que le monde saura que Dieu existe encore, que Jésus et l'œuvre de la croix, la puissance de la croix est toujours là, c'est en voyant la transformation qui se fait dans nos vies. Notre manière de vivre, c'est la seule preuve que Dieu est encore à l'œuvre et qu'il transforme des hommes. Hein, et donc, il compte sur nous, il a besoin de nous pour vivre cette vie. Et donc, c'est à nous de vivre le message de la croix, hein, par notre vie transformée, notre désir nouveau, et notre vie pure. Eh bien, c'est ça qui va vraiment proclamer le message de la croix. Christ est mort, il a bien voulu mourir, mais maintenant, c'est à nous de vivre cette vie nouvelle qui est issue de la croix. Le grain de blé est mort, afin de produire du fruit. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela et comprendre notre responsabilité. C'était pas juste une carte pour l'éternité, c'est une vie pour maintenant. Et nous devons la vivre. Donc l'apôtre Paul a dit, nous prêchons Christ crucifié. Ça change tout, c'est autre chose. Ce n'est pas une religion, nous prêchons Christ crucifié. Et c'est toute une autre manière de voir, c'est tout un autre concept, et c'est un renouvellement de l'intelligence. Et que le Seigneur nous aide à vraiment voir comment nous pouvons vivre cette vie de Christ parce qu'il est mort pour nous. Nous prendrons quelques instants pour que chacun puisse prier dans son cœur, et ensuite je prierai.